Antoine Chao.
Charlotte Berry.
Qui manque-t-il? Comme un bruit qui court.
Hashtag comme un bruit.
Serge Hanimi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir dans les locaux du Monde Diplomatique. On a eu envie de venir vous voir avec l'actualité qui s'accélère et le mouvement social qui gronde, parce que on s'est rappelé d'un livre que vous avez publié, une somme que vous avez publiée il y a maintenant 14 ans, qui s'appelait « Le grand bond en arrière », avec un sous-titre qui disait « Comment l'ordre libéral s'est imposé au monde ».
Parce que c'est notre projet !
Alors 14 ans après, c'est notre projet, disait notre président pendant sa campagne électorale. Est-ce que tout ce qui est en train d'être présenté comme des réformes modernes ne sont pas en fait des vieilles idées ?
Bah, disons que le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, ressemble beaucoup au monde d'avant. On a parfois effectivement l'impression que Emmanuel Macron ne fait que suivre une espèce de feuille de route qui est déjà connue. Alors à la feuille de route, on sait qu'il s'agit de mettre en place une société de marché, de faire disparaître à terme la sécurité sociale et les conquêtes les plus importantes du mouvement ouvrier au cours du siècle dernier, au nom de la priorité donnée à la concurrence. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il s'agit de la méthode permettant d'atteindre cet objectif, moi j'ai eu l'impression, en lisant Macron, ses entretiens, en entendant ses ministres, que ça me rappelait quelque chose de très ancien, et en particulier l'une des analyses qu'avait faite un dirigeant socialiste, Macron venait lui aussi quand même de ce milieu-là, en Nouvelle-Zélande dans les années 80, qui expliquait comment la transformation d'une société régie par les principes du travaillisme, du pouvoir syndical, etc., en société de marché, devait avancer. Il disait « il faut vraiment tout faire en même temps ». C'était ça son art de la guerre, son Sun Tzu de l'époque. Et il disait, je le cite, « n'essayez pas d'avancer pas à pas ». Définissez clairement vos objectifs et approchez-vous-en par bond en avant qualitatif, afin que les intérêts catégoriels n'aient pas le temps de se mobiliser et de vous embourber. La vitesse est essentielle, vous n'irez jamais trop vite. Une fois que l'application du programme de réforme commence, ne vous arrêtez pas avant qu'il soit terminé. Et il ajoutait, le feu de vos adversaires perd en précision quand il doit viser une cible qui bouge sans arrêt. Alors effectivement, on se dit, mais est-ce que c'est Emmanuel Macron ? Eh ben non, c'est pas Emmanuel Macron, c'est Roger Douglas, qui était donc le ministre des Finances socialiste dans le gouvernement néo-zélandais en 1984, et qui a créé à partir de rien un parti ultra-libéral. Ça rappelle un peu...
Il n'y a pas quelques analogies ?
Ça rappelle une analogie que les gens peuvent avoir à l'esprit, qui expliquait ça en novembre 1989, une fois que ces réformes avaient abouti. Et d'une certaine manière, il venait de donner les recettes de la contre-révolution libérale que son pays venait d'expérimenter. Et là, on a un peu le sentiment de revoir ça, quoi.
Voilà, l'éternel retour.
Les réformes qui s'emboîtent, enfin, c'est à la fois les étudiants, c'est à la fois la SNCF, ça sera évidemment les retraites, les unes après les autres.
La sécu.
La sécurité sociale. Donc ce sont des réformes qui sont évidemment voulues en même temps pour que les gens ne puissent pas réagir à tout à la fois, que chacun s'efforce de défendre son secteur et ne puisse pas défendre celui des autres, et que donc une initiative générale donne lieu à des ripostes fractionnées, qui seront évidemment détruites les unes après les autres. Et évidemment, si la riposte n'est pas une riposte générale, le combat est pour ainsi dire perdu d'avance. Donc je pense que cette offensive générale a ça comme objectif, de faire avancer un projet global de transformation de la société.
Moi, je vous demande simplement de ne pas prendre tout le monde en otage dans cette affaire. Je respecte. Je vais au contact. Je vous parle. Je dis les choses. Ma part de vérité, vous dites la vôtre. Mais moi, je ne siffle personne dans le dos. Elle va pas s'évaporer, la contestation, tant qu'on a les réformes à conduire. Je vais pas différer les réformes pour que je puisse me promener dans les rues tranquillement. Et puis, je vais pas me calfeutrer.
Ce projet de loi se décline en 8 articles. Alors, ce qui a été acté pour l'instant, c'est la transformation de la SNCF en société nationale à capitaux publics. L'ouverture à la concurrence à partir de 2019 est également approuvée. Ce sera d'ailleurs...
Et puis, elle a un autre objectif qui est plus ponctuel, encore que ça soit décisif, c'est de casser les syndicats en portant le fer dans les secteurs où ils sont encore relativement puissants. Alors, casser les syndicats, pourquoi ? Parce que les syndicats sont en général l'âme de la résistance à une société de marché, et que dès les années de l'après-guerre, Friedrich Hayek disait « on n'arrivera jamais à enfanter une société de marché si on n'a pas préalablement détruit le pouvoir syndical ». Et on constate que dans l'histoire de France, mais aussi dans l'histoire d'autres pays, il y a eu de grands mouvements sociaux où on a porté le fer contre le syndicalisme là où il était le plus puissant. C'était les mineurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les années 47-48, et puis quelques années plus tard, ça a été les dockers, et puis après, ça a été les syndicats ouvriers dans l'automobile. Et maintenant, il reste quand même un îlot où les syndicats sont encore puissants. C'est évidemment le secteur public, l'éducation, les fonctionnaires administratifs et la SNCF. Alors pourquoi s'en prendre aux syndicats ? Parce que dès que vous avez une puissance syndicale qui est encore réelle, eh bien, la supériorité écrasante du patronat et du capital dans les relations sociales est mise en cause. Et du fait qu'elle est mise en cause, il est impossible de procéder au grand projet néolibéral qui est de creuser les inégalités ou d'accélérer ce que l'OCDE appelait dans les années 80-90 la dispersion des revenus, en présentant ça comme un objectif qu'il fallait atteindre, la dispersion des revenus, parce que ça permet à chacun, en quelque sorte, de manifester son efficience, d'être rémunéré en fonction de son talent, de ne pas être écrasé par une espèce de bureaucratie salariale, par une hiérarchie trop étroite, etc.
Tout le dogme de l'individu-entreprise.
Voilà. L'individu-entreprise, c'est pas seulement le dogme, comme vous le savez, c'est la réalité qui fait que l'écart des salaires, qui était grosso modo de 1 à 20, à 1 à 30, enfin maintenant est passé de 1 à 300 à 400, et puis j'ai pas besoin de rappeler les profits du CAC 40, 100 milliards d'euros l'année dernière.
Et les concentrations des richesses dans un pays qui n'a jamais produit autant de richesses.
Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je dis là, c'est pas uniquement une analyse qui serait en quelque sorte biaisée par mes a priori politiques, mais ça a été admis par une étude du Fonds monétaire international, qui est évidemment passée relativement inaperçue, il y a 3 ans, et qui indiquait que le creusement des inégalités que nous avions connu ces 30 dernières années était causé pour moitié par l'affaiblissement du pouvoir syndical. Et je donne la phrase de l'étude du FMI de mars 2015, parce qu'elle est quand même parlante. Il établissait, cette étude relevait, je cite, « l'existence d'un lien entre la baisse du taux de syndicalisation et l'augmentation de la part des revenus les plus élevés dans les pays avancés » dans la période 1980-2010. Donc, si vous voulez aller dans le sens de cet objectif qui est la dispersion des revenus, vous savez que vous avez un îlot de résistance qui est le syndicalisme qu'il faut briser. Et de fait, encore une fois, si la moitié du creusement des inégalités est due au pouvoir syndical, une fois que vous dégagez ce pouvoir syndical, en particulier dans les secteurs où ce pouvoir est le plus fort, eh bien, vous avez une bonne chance d'arriver à ce résultat.
Comme je crois au dialogue social, je crois au rôle des syndicats et des partenaires sociaux, mais j'y crois au bon endroit, pas pour faire de la politique, pour faire du dialogue social. Ce que je propose, c'est une réforme profonde qui consiste à simplifier notre code du travail en disant la loi définit des principes fondamentaux et c'est ensuite à l'accord majoritaire d'entreprise ou de branche de définir ce qui, au plus près du terrain, sont les bons équilibres pour les salariés. Parce qu'on ne simplifiera pas notre code du travail si on ne procède pas à ce changement profond qui est un changement méthodologique et de gouvernance. Donc c'est ça le vrai changement et la différence, si vous voulez, profonde qui est la mienne avec les autres projets. Je propose de changer en profondeur les rôles parce qu'aujourd'hui, les acteurs ne sont pas à leur bonne place. Les acteurs ne jouent pas la bonne pièce.
Alors on pense là quand même à 2 précédents qui ne sont pas français mais qui sont très importants. Ouais. D'abord, la grève des contrôleurs aériens aux États-Unis en 1981, qui est brisée par Ronald Reagan. La conséquence de cette grève brisée, c'est que les grèves cessent aux États-Unis pendant, pour ainsi dire, 20 ans. Je crois que le nombre de journées de grève est divisé par 20.
Alors qu'il y avait une vraie culture syndicale et de grève aux États-Unis jusqu'à auparavant.
Exactement. Mais une fois que ce mouvement syndical a engagé une lutte un peu solitaire, eh bien, une fois que ce mouvement a été détruit, l'ensemble du monde du travail aux États-Unis en a payé les conséquences.
Ronald Reagan.
This morning at 7 a.m.
Ce matin à 7 heures.
The union representing those who man America's
les syndicats de contrôleurs aériens ont appelé à la grève.
They are in violation of the law.
Ils violent la loi.
And if they do not report for work within 48 hours,
et s'ils ne reprennent pas le travail sous 48 heures, ils seront licenciés pour faute grave.
Autre exemple auquel on ne peut pas ne pas penser, c'est évidemment la grève des mineurs au Royaume-Uni,
voilà,
entre 1984-1985.
Margaret Thatcher voulait fermer les mines qui perdaient de l'argent. Elle a refusé de céder aux syndicats jusqu'alors tout puissants, une logique capitaliste que les mineurs rejettent.
Margaret Thatcher avait dit qu'elle allait tuer tous les syndicats. Elle a commencé avec les ouvriers de l'acier, puis les chemins de fer et les mineurs, je la hais.
Cela fait presque 30 ans que son gouvernement conservateur a écrasé la grande grève des mineurs, parfois au prix de batailles violentes avec les milliers de grévistes et les forces de police. Et une année de privation extrême pour les mineurs et leurs familles.
We all chipped in together, and it was scraping for food. She didn't care.
Nous nous sommes serrés les coudes et on n'avait rien à manger, mais elle, elle s'en foutait. Elle a fait de nos vies un enfer dans ce village. Tout le monde a perdu sa maison. On avait tous des dettes. Et certains ne s'en sont jamais remis depuis. Mais elle, elle était tout sourire à Londres. Alors là-bas, ils pensent, oh, elle est très bien. Elle s'occupait des riches. Et pas du pauvre type de la classe ouvrière.
Pourquoi cette grève est importante et pourquoi elle fait penser un peu à la SNCF? Parce que les mineurs sont le cœur de la résistance ouvrière au Royaume-Uni. On les appelle même, à l'époque, les assassins de la classe dirigeante. Ils ont fait plier des gouvernements, conservateurs et aussi des gouvernements travaillistes, qui ont dû céder. Donc, l'objectif pour Margaret Thatcher, quand elle déclenche la grève, parce que c'est elle qui la déclenche au moment voulu, c'est de détruire ce bastion de la résistance pour permettre qu'après, il n'y ait plus de résistance nulle part. Et d'une certaine façon, il me semble qu'en s'en prenant à la SNCF, Macron, Édouard Philippe et le pouvoir actuel ont à l'esprit évidemment ce précédent de 1995, parce que quand vous interrogez les Français en leur demandant quel exemple de lutte sociale victorieuse ils ont à l'esprit,
C'est 95.
Donc on se dit que si on arrive à faire plier le mouvement ouvrier là où il a été le plus fort et où il l'a emporté précédemment, eh bien toutes les promesses sont ouvertes. Et que c'est donc un retour à la stratégie que définissait Roger Douglas en 1989 à propos de la Nouvelle-Zélande.
Un président, est-ce que ça peut être ivre mort dans un café, lire les gros mots, faire un striptease ou un discours sans préparer? Un président, qu'est-ce que ça mange? Un président, qu'est-ce que ça boit? Est-ce que parfois ça le démange de ne plus parler la langue de bois? Un président, est-ce que ça pleure? Est-ce que ça connaît le malheur? Est-ce que parfois ça ne prend pas peur? Serrer la main d'un dictateur. Un président, le tien, le nôtre. Un président, ou bien un autre. Un président, le tien, le nôtre. Un président, ou bien un autre. Un président, de quoi ça cause avec un autre président? Est-ce que ça rit, est-ce que ça ose, ou bien ça parle avec des gants? Un président, et c'est notoire, n'a pas réellement le pouvoir, qu'il soit de gauche ou bien de droite. Est-il puissant comme Ponce Pilate, ou simplement une marionnette à paravent, une girouette agitée par ceux qui dans l'ombre à coups de milliards dirigent le monde?
Comme un bruit qui court.
Un président, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change?
C'est une chance le troisième tour social pour un président comme Macron.
Christophe Barbier, BFM.
C'est une épreuve du feu indispensable. Ça ne se fera pas sans barricade, ça ne se fera pas sans dégâts, mais il faudra à un moment donné casser complètement l'obstruction syndicale.
Serge Halimi, Le monde diplomatique.
Alors évidemment, parfois, le gouvernement et le patronat remportent la bataille, mais ils pavoisent trop tôt. On se souvient de Sarkozy, qui avait été élu président en 2007 et qui faisait voter aussitôt une loi restreignant le droit de grève dans les services publics.
Avec un service minimum.
Avec un service minimum, et qui l'année suivante pavoisait un peu comme un enfant hilar en disant
« Désormais, quand il y a une grève en France, personne ne s'en aperçoit. »
Là, en ce moment, il y a une grève en France, et je crois que tout le monde s'en aperçoit, donc il avait triomphé un peu trop vite, et on voit qu'à l'heure actuelle, ça résiste un peu partout, les cheminots, évidemment, mais les facs, Air France, les hôpitaux, les éboueurs, les électriciens, les caissières. Le seul problème, c'est que ces mouvements semblent exister en ordre dispersé, sans trait d'union, alors qu'il faudrait que ces mouvements de résistance convergent. Car après tout, ça n'est pas une réforme qui est en cause, celle de la SNCF ou ailleurs, mais le monde que ces réformes veulent mettre en place.
Voilà le projet.
Voilà, exactement.
Parce que c'est notre projet !
C'est le projet, et ce projet suggère ou impose ou requiert une résistance concertée. Comme il y a un texte là qui circule, qui s'appelle « Faire sa fête à Macron », je crois, ou « Débordement général », qui rappelle que dans le projet de loi sur la SNCF, on trouve 84 fois le mot « concurrence », mais 0 fois le mot « climat »,« réchauffement »,« biodiversité ». Donc il faut, me semble-t-il en tout cas, être à la fois conscient que cette affaire des cheminots nous regarde tous, et qu'une éventuelle dispersion des luttes nous ferait tous perdre, qu'en définitive, une offensive générale appelle une riposte générale. Alors, pour le moment, il est question d'organiser cette riposte générale, de proposer une grande manifestation nationale le 5 mai prochain à Paris, et ça peut être effectivement l'un des moyens de faire converger ces mouvements qui, à mon sens, n'obtiendront de résultats favorables que si la lutte est une lutte commune.
Paris, Bourse du Travail, mercredi 4 avril.
On peut rentrer ou...
Pardon, laissez passer la bonfare, merci.
Par contre, il va falloir que si vous voulez qu'il y a Frédéric Lordon et François Alvin qui vont venir vous faire leur discours ici. Donc il faut vous reculer un peu pour puisse installer la sonnette.
Merci beaucoup à la fanfare invisible.
François Ruffin.
Bon. Alors, pourquoi on est là ? Quand Frédéric m'a contacté avec Loïc, avec des copains syndicalistes et puis tout ça, on s'est dit, ça part de la phrase de Roosevelt qui disait, au moment de la Grande Dépression, il faut essayer quelque chose. Le peuple ne nous en voudra pas d'échouer, mais il nous en voudra de ne pas essayer. Bon, notre proposition, c'est de faire déborder la rivière, c'est de faire sa fête à Macron, c'est de poser une date. Si nous sommes là ce soir, c'est pas seulement pour lutter contre les contre-réformes de Macron, pas seulement pour lutter contre les profits du CAC 40, les dividendes des actionnaires, la quête éternelle de profit. Moi, je suis convaincu que l'explosif, c'est le désir d'autre chose, le désir d'un autre chose joyeux, et c'est ça qui, à mon avis, peut faire sauter le couvercle. Le message, c'est le 5 mai, la fête à Macron, le 5 mai, débordement général, nous avons le droit d'espérer. Merci à vous.
Frédéric Lordon.
Bon, je crois que vous avez compris maintenant que nous ne sommes pas là pour procéder à quelques reconstitutions de ligues dissoutes. On n'est pas là pour rejouer à nuit debout. Nous sommes là pour autre chose. Quand des politiques publiques, continuellement poursuivies depuis 30 ans, les fanatiques qui se présentent comme des modernisateurs, des pragmatiques et des bâtisseurs sèment l'inefficacité, l'absurdité managériale et la démolition, car voilà la vérité, ce sont des bousilleurs, ce sont des démolisseurs. Ils démolissent les collectifs, ils démolissent un état d'esprit, celui du service du public, et pour finir, ils démolissent les personnes. Après déjà de trop nombreuses étapes, les ordonnances SNCF ne sont qu'une extension supplémentaire du domaine du saccage général. Si le macronisme a une seule vertu, c'est de rendre de plus en plus visible à tous la cohérence d'une offensive généralisée. Il faut que tous sachent qu'ils sont tous candidats à y passer et qu'ils sachent aussi qu'ils ont les moyens de faire dérailler le convoi. On nous demande ce que nous voulons. Voici la réponse. Nous voulons le mouvement de masse. Si l'offensive est générale, nous voulons le débordement général. Il faut dire à tous ceux qui se sentent dans le malheur, qu'il y a une issue. Ne restez pas seuls. Rassemblez-vous. Luttez. Luttons. C'est le moment.
Comme un bruit qui court
sur France Inter.
Une question que j'ai aussi, Serge Halimi. Vous parliez de 95, qui reste dans les mémoires comme une des victoires du mouvement social contre cette volonté de réforme des gouvernements successifs. Néanmoins, le gouvernement y a pensé aussi, s'est préparé aussi à l'offensive. Et puis depuis, il y a eu d'autres mobilisations un peu partout dans le monde qui ont été sémées, dénonçant la même financiarisation de l'économie, la même offensive libérale sur les communs en général. On pense à Seattle, Gênes, qui avait fait du bruit à l'époque. Après, il y a eu les forums sociaux mondiaux. Il y a eu 2007, il y a eu la Nuit debout il y a 2 ans de ça. Pourquoi ça retombe à chaque fois ?
Bon, il y a des mouvements qui réussissent, il y a des mouvements qui échouent, mais même dans la période récente, vous avez eu des mouvements qui ont réussi. On évoquait 95, mais il y a eu des mouvements postérieurs à 1995, y compris aux États-Unis. Il y a eu une grève des camionneurs à la fin des années 90 qui s'est traduite par un résultat très important dans un secteur où les échecs avaient été particulièrement nombreux. Par ailleurs, ces mouvements ont débouché aussi sur un climat intellectuel, un climat idéologique, dont il est évident qu'il n'est pas le même qu'il y a une trentaine d'années. Vous voyez la mobilisation dans les facultés, il y a des gens qui, de fait, refusent ce monde. Le néolibéralisme ou le libéralisme a perdu sa part de rêve, n'est plus un projet collectif enthousiasmant pour personne, sauf peut-être pour les gens qui entourent le président de la République.
Plus personne ne croit au ruissellement de la richesse des plus riches sur les plus modestes, quoi. Occupy Wall Street est passé par là aussi.
Voilà, et d'ailleurs, quand vous évoquez cette théorie du ruissellement, les responsables politiques se récrient en disant qu'ils n'y croient plus. Il y a un moment où ils la défendaient, maintenant ils n'y croient plus.
Je ne crois pas à la théorie du ruissellement, simplement.
Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d'eux, il faut dire c'est formidable. Non, je ne crois pas au ruissellement pour ma part.
Je ne crois plus non plus à l'autorégulation des marchés.
Voilà. Et on voit aussi qu'un certain nombre de forces de gauche qui avaient en quelque sorte relayé cette idéologie néolibérale, un peu comme en Nouvelle-Zélande le Parti travailliste, ou bien le Parti socialiste en France, ou bien les blairistes au Royaume-Uni, ou bien le PSOE en Espagne, ont été sanctionnés très durement par les électeurs, très durement aussi par leurs militants, puisque les partis se sont vidés, et des forces neuves sont apparus, qu'il s'agisse évidemment de Podemos, de Corbyn ou de Sanders aux États-Unis, qui n'existaient pas et étaient à vrai dire à peu près inimaginables il y a une trentaine d'années. Corbyn, il y a 5 ans, personne ne l'aurait imaginé. Là, il est possible qu'il devienne le Premier ministre. Sanders...
Un socialiste. Aux États-Unis.
Un socialiste septuagénaire dans un État, le Vermont, qui est tout de même pas le centre de la vie intellectuelle ou économique du pays, qui arrive pratiquement à faire jeu égal avec une ancienne secrétaire d'État que tout le monde annonçait comme élue. Bon, c'est aussi le produit de ce bouillonnement à la fois intellectuel, mais de ce bouillonnement social, et du fait que les gens ont compris quelle était la direction dans laquelle voulaient les mener les responsables politiques, à la fois de droite et puis de gauche, dans cette famille néolibérale.
L'esprit de l'histoire ! La jeunesse est là ! Mais sans papier, l'université, la force en premier ! Et nous c'est tout !
Dans le numéro du Monde diplomatique de ce mois-ci, Pierre Rimbert évoque un discours de Malraux à propos de Jean Moulin, où il disait que la possibilité de se battre pour des gens qu'on ne connaît pas, de penser à eux comme à des proches, parce que leur lutte rejoint la nôtre et parce que notre engagement rejoint le leur. C'est un peu une perspective qui me semble être en phase avec la nécessité du moment.